Très bon après-midi. Nous saluons notre fraternité gnostique, Pace Invérentielle. Nous voulons en ce moment vous inviter et nous voulons inviter tous les frères et sœurs gnostiques pour que nous fassions parvenir une prière au Très-Haut, en concentrant nos cœurs et en demandant à l'être qu'il ait la grande bonté d'invoquer la divine présence de notre vénérable maître Samael Aoun Beor, notre avatar, pour qu'il, avec les pouvoirs qui lui sont conférés, il répande sa force, son pouvoir et sa grâce sur tout le peuple gnostique du monde. Et qu'ainsi nous puissions compter avec cette aide spirituelle. De même, nous demandons et nous supplions, nous implorons à notre très aimé maître Lakshmi Daimon pour qu'il nous inspire dans notre cœur et qu'il répande sa sagesse, sa science en chacun de nous pour illuminer nos âmes, en illuminant nos cœurs, nos manteaux, pour que nous puissions avoir de l'équilibre, non seulement un équilibre émotionnel, mais aussi dans l'aspect sentimental, et qu'ainsi nous puissions être unis dans la prière et dans la doctrine que nous devons étudier. Bienvenue donc, bienvenue frères, sœurs, dans ces études des deuxièmes chambres. Et aujourd'hui, nous devons étudier avant notre rituel. Et donc nous allons, nous tous, faire des analyses ensemble, certains aspects d'ordre ésotérique, des aspects transcendantaux qui sans doute pour nous, ce sont d'une grande importance pour qu'ainsi nous puissions rester dans une organisation psychologique, émotionnelle, mentale, et que nous n'oublions pas de nous-mêmes. Nous ne les oublions pas nous-mêmes, qui est ce qu'il y a de plus important dans tout ça. Je voulais parler aujourd'hui avec vous et vous exprimer à tous les frères, les sœurs nous sommes réunis maintenant, et même les enfants qui prêtent attention avec beaucoup de sagesse aux enseignements gnostiques pour les études de samedi. Nous avons besoin de comprendre que le corps de doctrine gnostique est précisément contenu dans l'œuvre de nos vénérables maîtres, dans l'œuvre de sommet qui est celle de notre maître Samael, et l'œuvre merveilleuse aussi de notre maître très aimé Lakshmi Daimon. Et ces corps sont très bien nourris aussi par la Bible hébraïque, par les tarots. Et ce corps est nourri aussi d'une façon adéquate par tous les éléments d'étude que le maître nous a conseillés. Le corps des doctrines gnostiques, dans son ensemble, à une organisation. Et moi, je veux vous exprimer, vous tous, frères, que quand il y a de l'ordre, et quand il y a de la discipline, et quand il y a de l'organisation, on sent qu'on capte mieux les enseignements, et on comprend mieux par où nous devons commencer tout ce processus merveilleux qui s'appelle corps de doctrine. Et je veux alors faire référence à l'importance qu'il y a, c'est de commencer à l'initiation de façon ordonnée. Par exemple, il est nécessaire, et c'est très prudent aussi, que nous commencions nos études par la psychologie de notre aimé maître Samael et du maître Axmi. Cette psychologie est contenue dans leur livre, et précisément dans le livre « Psychologie révolutionnaire ». Nous trouvons un ordre de travail pour que nous puissions le faire, le vivre, pour que nous puissions connecter ces études avec notre vécu quotidien. Si nous étudions ça sagement, nous allons trouver à la fin du livre toute la technique qu'il faut employer pour la connaissance de soi-même et pour l'éveil de la conscience. Et donc, pour l'étude sur les moi psychologiques. Ensuite, il y a un autre livre transcendantal merveilleux du maître qui est La Grande Rébellion. Vous voyez, frère, nous allons faire regarder de près ces livres, nous allons les étudier tranquillement, sereinement, d'une façon analytique, et nous allons en prendre des notes, nous allons nous faire des petits tableaux synoptiques sur ces mystères qu'on trouve dans ces livres. Parce que comprendre la psychologie, d'un seul coup, la psychologie du moment, la psychologie de la mort psychologique, la psychologie de l'éveil de la conscience, c'est pas facile. Parce que nous avons une mentalité qui est inondée de concepts, de préconcepts, d'idées, des affaires des religions, des affaires politiques. Et tout ça a occupé notre mémoire, a pris la place dans notre mémoire. Maintenant, nous avons besoin de commencer à enlever, faire sortir cette culture qui appartient à l'ego pour mettre en nous la culture de l'être, qui indubitablement c'est quelque chose d'extrêmement important. Les livres du maître Lakshmi sur ces thèmes, les récitals à un peuple par exemple, et d'autres livres, nous parle de la psychologie et les 33 joyaux du dragon jaune qui mettent de l'ordre dans notre manière de penser, de sentir, d'agir et qui nous induisent, on va dire comme ça, à avoir une discipline d'étude. Nous, et excusez-moi ce que je vais vous dire maintenant, frères et sœurs, nous ne sommes pas très penchés pour lire. Nous n'avons pas cette culture, je l'ai dit pour moi-même. Parce que le seul qui m'a fait lire, moi, c'était le maître Samael. Après, donc, c'était le maître Lakshmi. Mais je suis très mauvais pour lire d'autres choses. Donc, je n'ai pas beaucoup d'autres cultures générales sur des thèmes politiques, religieux et d'autres thèmes de la société. Justement parce que je n'avais pas lu. Je suis devenu vieux et j'ai étudié seulement les œuvres de nos vénérables maîtres. Donc, quand nous avançons dans nos études, comme celui qui est de la psychologie, nous allons organiser les pas que nous allons suivre. Pourquoi? Parce que nous comprenons, et pourvu que nous puissions comprendre profondément, ce qu'est le premier facteur de la révolution de la conscience. Nous avons appris On va parler des facteurs, pour les facteurs mourir. Mais on dit aux frères, sur n'importe quel thème de psychologie, et on dit, ah oui, je sais, je connais qu'il faut mourir, naître et se sacrifier. Mais, excusez-moi, sœurs et frères, mais comment savons-nous cela? Est-ce que c'est mentalement? Est-ce que nous l'avons appris par cœur et nous le répétons, nous le disons d'une manière émotionnelle? Où est la pratique sur tout ça? Quelle est cette pratique? Donc, alors vous allez voir, frères, quand on connaît la psychologie de la mort, par exemple, la mort de l'ego, quand on apprend sur tous les autres aspects en relation avec la psychologie, c'est alors qu'on s'intéresse à se connaître soi-même. On commence à savoir que nous avons un océan d'idées, de concepts, de préconcepts, qui ne vont pas nous aider vraiment, mais qu'il faut désapprendre pour pouvoir capter des idées nouvelles, pour commencer à naître, qui laisse en nous un sentiment différent, pour que de cette manière nous puissions nous décoller, on pourrait dire, dans ce qu'est le travail. Quand tout ça a été déjà étudié fermement, sérieusement, quand nous avons pris le livre de l'autoconnaissance psychologique que le maître nous a laissé, alors, à ce moment-là, les choses changent. Et commencent à changer parce que vous pouvez voir que la psychologie de la mort est en relation avec la verticale de notre vie. Et cette verticale et l'aspect spirituel. Nous allons comprendre mieux, peu à peu, ce qu'est s'étudier soi-même en relation avec notre âme et notre esprit. Ça nous aide merveilleusement, parce que la philosophie de la vie est en relation précisément avec l'horizontal de la même vie. Et c'est là que nous trouvons les points mathématiques où se rencontrent ces deux lignes, la verticale et l'horizontale. Ces points, nous devons les prendre en compte. Parce que tout celui qui arrive et qui reçoit l'enseignement gnostique, d'une certaine manière, est arrivé à ces points mathématiques. Pourquoi on dit qu'il est mathématique? Parce qu'à partir de là, il faut compter quelles sont les valeurs que nous allons développer dans cet aspect. Donc nous allons continuer par où nous avons commencé ou est-ce que nous allons changer. C'est ça qu'on décide. Si nous commençons à changer notre façon de penser, c'est parce que nous sommes en train de pratiquer. Si nous allons changer notre manière de sentir, c'est parce que nous sommes en train d'entrer à l'intérieur de nous-mêmes. Et quand nous commençons à agir conformément à nos études, alors on le voit merveilleusement à la maison, notre comportement est vu dans la rue, dans notre travail. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'on commence à voir des niveaux de l'être. C'est-à-dire que l'être commence à être présent dans la psychologie de la personne. Et quand l'être et le savoir, il faut savoir ça, frère, sœur, ça, on peut réussir à faire ça, même si ce n'est pas complètement, mais il y a un équilibre entre l'être et le savoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Un équilibre entre la verticale et l'horizontale. Parce que là, nous sommes en train d'étudier, c'est là que nous sommes en train de comprendre que nous avons un corps physique, que nous devons travailler pour trouver notre nourriture, que nous devons nous initier dans un aspect où on doit devenir des meilleurs parents, meilleurs enfants, meilleurs époux, meilleurs amis, meilleurs citoyens. Ça parle déjà d'un processus initiatique qui s'opère. Et ça est en relation, je répète, avec la philosophie de la vie. Parce que nous ne pouvons pas penser que la vie spirituelle peut aller seule. Non. La vie cellulaire, la vie matérielle, non plus, ils ne peuvent pas aller seuls. Parce que nous allons par la ligne verticale et que nous ne reconnaissons pas la ligne horizontale, alors nous devenons des fanatiques religieux. Et ça, c'est dangereux. Si nous avançons sur la ligne matérielle ou cellulaire ou horizontale, bon, nous devenons des matérialistes. Et ça, ça ne sert pas non plus. Et la personne, donc, s'est perdue. Tout simplement elle est restée dans les raisonnements et elle n'est pas rentrée dans les processus d'avoir un langage adéquat et un comportement dont on dirait que cette personne est en train de faire un changement et un travail. Ce que je suis en train de dire, on doit bien le comprendre. Pourquoi? Pour qu'on puisse faire le deuxième pas. Alors, quel est le deuxième pas? C'est le pas de la sexologie. Celui qui a étudié la psychologie comprend très facilement et avec beaucoup de responsabilités, cette personne va pouvoir commencer la sexologie pratique parce qu'il va commencer, il va avoir eu des études, il va donner une revalorisation à ce qu'est, par exemple, le mariage parfait. Le mariage parfait, comme son nom le dit, est extraordinairement parfait. Et ça sert à faire une œuvre équilibrée avec la psychologie. Nous avons pu vérifier jusqu'à la satiété que quand nous avons appris la psychologie, nous ne tombons pas dans des erreurs brutaux et profondes dans l'aspect de la sexologie. Quand on commence à manier la sexologie au niveau du couple, du mariage, ça, vraiment, ça ne va pas être aussi difficile que pour qu'on puisse comprendre quels sont les pas à suivre pour pouvoir organiser notre mariage, notre couple, et qui donne des résultats. Pourquoi? Parce que nous apprenons et nous manions avec facilité, on va dire, les trois magies. On apprend la magie amoureuse. Alors c'est un homme ou une femme amoureux, aimant, les uns envers l'autre, compréhensif profondément de tous les aspects et de toutes les manques, les fautes, les erreurs, les incohérences qui sont commises entre l'un et l'autre, ou dans la famille, dans le foyer, dans la partie intime. Pourquoi? Parce que on a une psychologie qui nous a aidés à nous organiser, d'organiser notre manière de voir les choses. Ensuite, on trouve la magie qu'on connaît en tant que la magie de l'amour. C'est-à-dire, on commence à sentir le véritable amour dans le cœur. Parce que la magie amoureuse est plutôt au niveau mental et sentimental et émotionnel. Mais la magie de l'amour, là, sont concentrées des valeurs réelles dans les cœurs. Et fait que cette dame sente dans son cœur cet amour envers son compagnon que la loge blanche lui a donné, et vice-versa aussi, l'homme pour la femme. Donc ils se respectent l'un l'autre. Et ils se préoccupent pour ce que l'autre peut faire ou qu'il ne fait pas. Et donc, à ce moment-là, ça a une grande valeur. Et il y a quelque chose de très important, c'est qu'on sente cette envie sexuelle, ses souhaits, comme un souhait spirituel. Que chacun des deux sente cela. Ça déjà nous amène très loin dans l'aspect interne, intérieur. Parce que ça, de sentir cette inspiration, appétit sexuel, cette nécessité de réaliser une pratique, sa pratique, parce qu'on sait qu'on est en train d'avancer vers l'éveil de la conscience, et ils sont en train de produire des phénomènes merveilleux intérieurement, des phénomènes transcendantaux, grâce à la transmutation de leurs énergies. Et donc, ils sont en train de se préparer pour descendre à la 9e sphère, où ils vont fabriquer les corps existentiels supérieurs de l'être. Mais avant tout, on va mourir. Là, nous allons conjuguer la mort avec la naissance. Et ça arrive quand nous allons trouver le troisième aspect de la magie, qui est la magie sexuelle. Ça, c'est la troisième magie. La magie sexuelle, c'est un processus, un travail sérieux, défini, organisé. Et ce couple va avancer extraordinairement, merveilleusement, parce qu'ils font des pas ensemble, des pas fondamentaux, dans la mort du moi. Pourquoi ? Parce que quand nous avons étudié la psychologie, on a appris à méditer. Et quand on a appris à méditer, on a fait des autodécouvertes merveilleuses à propos du moi. Et quand nous sommes dans la 9e sphère, nous appliquons cette connaissance et nous avons déjà un grand sérieux et nous avons une organisation psychologique pour pouvoir travailler avec notre divine mère, avec la mère divine Kundalini, pour qu'elle agisse et que nous puissions aussi travailler avec notre entraîneur psychologique et d'un autre côté que nous puissions aussi travailler avec les sacratissimes Esprit Saint qui est celui qui allume le feu sacré. Ces trois aspects, la mère en tant qu'énergie, notre entraîneur en tant que les Méphistophèles qui est celui qui fait des combustibles, et le très sacratissime Esprit Saint qui allume le feu. Et tout ça, c'est la pure magie. Et ça, c'est le travail psychologique et sexologique uni, en vibrante harmonie. Où cette femme et cet homme commencent alors à avancer sur un chemin, qui est la liturgie dit que ça montre un éternel amour, parce qu'eux, ils ont compris ce qu'ils doivent faire dans cette 9e sphère. Bien, ce travail est merveilleux et transcendantal. Et il faut le développer en accord avec les sentirs du cœur, avec cette façon de capter, chacun va capter la façon de le faire. Ça nous montre fondamentalement que le corps des doctrines nous a déjà amenés à ce niveau. Donc nous avons passé à analyser, faire une analyse en quelques minutes, frères et sœurs, analyser ce qui s'appelle l'âme de la doctrine. Vous voyez que notre doctrine a un corps. Nous avons parlé un petit peu de ça. Et il a aussi une âme, et donc il a aussi un esprit. Et nous devons apprendre à utiliser ces trois pas. L'âme de la doctrine est contenue dans l'enseignement que nous pratiquons. la pratique, nous disent les enseignements. Alors, qu'est-ce qui se passe, chers sœurs et frères? On dit que la pratique fait le maître. Vous êtes en train de m'écouter, vous êtes intéressé pour revaloriser tout ça. L'âme de la doctrine, on va la voir quand nous prenons une théorie du corps de la doctrine et que nous le vivons de manière intense et nous le pratiquons de manière intense. Quand ça arrive, alors les résultats, écoutez-moi bien, les résultats de toute pratique, c'est l'âme. Et cette âme, nous devons la garder dans notre conscience. Nous devons la garder dans notre état psychologique libre, c'est-à-dire dans la conscience que nous avons, notre conscience active que nous avons. Et qu'est-ce qui se passe alors? Qu'elle commence à grandir et le niveau de conscience se développe et on commence à avoir des capacités chaque fois plus profondes et qu'étant donné que l'âme est composée des forces, est composée des principes, l'âme est composée d'états supérieurs et que ces différents facteurs duquel l'âme est composée, nous ne les avons perdus dans la chute, dans la régénération animale, et maintenant nous devons les récupérer. Par exemple, nous devons récupérer, chères sœurs, la foi. Pourquoi? Parce que l'humanité en général a perdu la foi. Nous, les gnostiques, nous avons commencé à récupérer la foi. D'abord dans notre Dieu intérieur, parce que nous nous souvenons de lui de moment en moment, parce que nous le reconnaissons en tant que notre Père, en tant que notre Dieu. Quand on commence à récupérer la foi consciente, ce qu'on appelle aussi, dans les peuples gnostiques, on l'appelle la foi solaire, nous avons des armes puissantes pour avancer. Ensuite, nous récupérons les niveaux de compréhension sur ce qu'est notre Dieu et ce qu'est le Père cosmique commun et ce qu'est le divin daimon, ce qu'est le Lucifer intérieur de chacun de nous. Donc nous allons développer ces capacités de compréhension et nous allons aussi récupérer l'espoir parce que vraiment on est arrivé à un niveau où les gens n'ont plus d'espoir. Aucun espoir sur eux-mêmes. Qu'est-ce que je veux faire dans cette vie-ci? Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va arriver à ma famille? Et avec tout ce qui se passe. Parce que l'espoir est uni à la foi. Ensuite, il faut développer à nouveau en nous la force de la volonté. Parce que sans cette force, nous n'allons pas faire des pas dans ces études. Nous avons besoin d'avoir une force de volonté pour pouvoir comprendre et pour éliminer, grâce à notre Mère divine, parce que nous avons de la foi en elle, nous ne l'avons pas vue, mais nous la sentons. Et nous savons que nous avons cette force à l'intérieur de nous, ce feu cosmique, qui s'appelle Devi Kundalini, que nous devons l'éveiller à l'intérieur de nous, pour qu'elle puisse éliminer dans notre psychologie, de tous nos centres, qu'elle élimine toutes ces forces ténébreuses, négatives, qui font de nous des créatures faibles. Ce que je suis en train de vous dire, on doit les mettre en relation peu à peu, et jusqu'à ce que nous puissions développer ce qu'on appelle en ésotérisme la perle séminale, qui est une symbiose entre la psychologie, et la sexologie. Je vais vous donner un travail et vous allez aller voir dans les livres du Vénérable Maître, du Maître Samael, le mystère du fleurir doré. Vous allez voir qu'est-ce que c'est que cette perle séminale. Où se forme-t-elle? Où est-elle? Est-ce que ce n'est pas dans les os? Est-ce que c'est quelque chose qui est à l'intérieur d'une huître puissante et merveilleuse? Et cette perle, écoutez bien, c'est notre essence qui grandit, qui se développe et qui devient forte. Pour qu'un jour, pas très loin, pas lointain, que nous puissions compter avec l'embryon d'or. Parce que cette psychologie et cette sexologie pratique, grâce aux grands efforts que nous sommes en train de faire pour changer en nous-mêmes, ça fait que les trois facteurs puissent se cristalliser. Cette cristallisation des facteurs a comme résultat un état intérieur où nous pouvons nous sentir très satisfaits parce que nous commençons à créer l'âme. Écoutez-moi bien. Nous commençons à créer l'âme. Et ça, c'est le premier travail que nous devons faire. Nous devons créer l'âme. Et cette âme humaine que nous n'avons pas, que nous devons la développer, la faire grandir, ça fait que qu'elle puisse nous placer, nous, dans un niveau gnostique, ésotérique. Et déjà dans le monde, ça arrive dans le monde électronique. Non, d'abord dans le monde moléculaire. Comment ça se fait ça? Et se développe ses capacités. Pour que quand l'embryon d'or s'est développé et qu'il s'est connecté avec l'âme humaine, alors ce travail commence à se faire dans le monde électronique. Parce que vous savez, sœurs et frères, que le monde cellulaire, nous sommes ici, avec ce corps. Donc, dans notre intérieur se trouve la partie moléculaire qui est la quatrième dimension. Puis on trouve le monde électronique qui est déjà en relation avec la cinquième dimension de nous. Ou dans la lumière est merveilleuse et ça sort de partout et d'aucune part spécialement. Parce que là on pourrait l'appeler le ciel, c'est le lieu où il y a une véritable paix, où il y a vraiment, nous devons arriver là, nous avons besoin d'arriver à conquérir ces états, grâce aux enseignements que nous avons. Quand nous avons avancé, nous nous sommes développés, et nous avons acquis de plus en plus de conscience, et nous l'avons développé, grâce à ces pratiques, à beaucoup de pratiques, de méditation, nous avons découvert encore beaucoup plus de choses, le fond et le tréfonds de notre doctrine. À ce moment-là, l'homme a pu organiser sa manière d'être. Donc, la doctrine de l'être et rentrer avec une grande force, avec un grand pouvoir en lui. Et il a mis de côté la doctrine de l'ego. Et là, nous ne sommes plus capables d'aller forniquer, à commettre adultère, à nous enivrer, ou à nous disputer avec les gens. Non. Le changement a déjà eu lieu de l'intérieur vers l'extérieur. Et ça a beaucoup de valeur. Et c'est ça dont nous avons besoin, nous tous, mes chères sœurs et frères. Ce que je suis en train de vous dire est basée sur une grande documentation. Et nous les avons. J'espère que vous, vous serez très éloquent et studieux, que vous étudiez les œuvres des maîtres pour commencer à faire votre organisation psychologique, mentale, émotionnelle, et que nous puissions mettre à profit cet enfermement que nous avons ces jours-ci, pendant ces mois-ci, et pour pouvoir avancer beaucoup dans nos études. Parce que dans nos études, il faut comprendre que c'est une chose l'éveil de la conscience. Et une autre chose très différente, c'est la mort psychologique. Et comprendre ce qu'est la mort psychologique en relation avec les initiations. Ces trois aspects sont différents les uns des autres, mais ils vont ensemble, comme l'arbre de la vie avec l'arbre de la science du bien et du mal, qui s'unissent, sont unis par les racines. Ces trois aspects, c'est des mêmes. Éveiller la conscience, c'est un travail de moment en moment, d'instant en instant. Et celui de mourir, c'est un travail d'une compréhension profonde qui a besoin de la méditation pour pouvoir faire cette œuvre. Et s'initier dans les mystères christiques, c'est différent aussi, parce qu'il s'agit de tout ce que nous allons pouvoir organiser dans notre comportement et dans les processus que la vie nous montre. Donc, dans le troisième aspect de ce dont nous sommes en train de parler, qui est le corps de doctrine, âme de la doctrine, alors nous trouvons le troisième aspect qui est incarner l'esprit. Et voyez mes frères, il faut comprendre que nous sommes à la fin de la race aryenne et que notre très aimé maître, Samael, est le cinquième des sept, c'est-à-dire qu'il est le prophète qui a apporté l'enseignement la plus extraordinaire pour que nous puissions connaître ce que s'appelle la cinquième vérité. Cette cinquième vérité est celle qui nous a conduit d'une façon didactique, organisée, disciplinée, jusqu'à la compréhension de ce qu'est le Christ. Le Christ, vous savez que ce n'est pas une personne. Le Christ, c'est une force. Et le maître, Samael, en tant que l'évangéliste de la cinquième vérité, nous a appris le travail que nous devons développer avec le cinquième élément de la nature. Le cinquième élément de la nature, c'est l'éther. Et si nous avons été sages, et nous le sommes, à un moment donné, nous allons comprendre que les mystères de l'éther sont transcendantaux, parce que l'éther est le fils de l'union du prana et de l'akash. Le prana représente le père, l'akash représente la mère. C'est-à-dire que l'aspect positif, le prana, et l'aspect négatif, l'akash. Cet akash s'est uni au prana, et le prana s'est uni à l'akash, et le résultat, c'était le fils, qui est l'éther. Je suis en train de parler du Christ vital, de la nature. Je suis en train de parler du fait que la nature est composée dans son aspect d'expression, composée de prana et d'akash. Et que quand ils s'unissent, ils ont produit l'éther, qui est le fils. Donc le Fils est celui qui a hérité toute la nature. C'est pourquoi c'est très important d'étudier les tatouages. Parce que les tatouages, ce sont des principes des vies, des vibrations, et qui sont en relation avec l'état intérieur, psychologique, mental, émotionnel, instinctif de nous tous. Donc, quand nous, les étudiants, nous commençons à manier la transmutation, alors nous allons libérer des forces puissantes. Nous allons libérer, et l'idée, c'est d'éveiller la Devi Kundalini. D'éveiller cette bénie déesse mère à l'intérieur de nous, pour qu'elle monte par notre cordillère centrale, pour qu'elle monte par cette cordillère que nous pouvons dire des canons après canons, et qu'elle éveille peu à peu nos centres vitaux, centres vitaux d'énergie, et qu'elle puisse mettre en activité nos sept églises, nos sept chakras. Depuis l'église d'Éphèse, qui est dans le coccyx, l'église de Smyrne, l'église de Pergame, l'église de Thyatire, l'église de Sardes, l'église de Philadelphie, et finalement l'église de Laodicée. Comme vous pouvez vous rendre compte, alors nous allons trouver que physiquement, il y en a sept plexus, et de manière intérieure, sept chakras. Et déjà, dans la partie intérieure et spirituelle, les sept églises qui correspondent précisément aux sept esprits devant le trône de Dieu. Vous voyez comme c'est important tout ça. Pourquoi les sept esprits? Parce que l'église d'Éphèse a les régents, son régent est l'archange Gabriel. Et l'église de Smyrne, son régent, c'est l'archange Raphaël. Pour l'église de Pergame, est régie par l'archange Uriel. L'église de Thyatire a comme esprit devant le trône de Dieu et dans notre cœur l'archange Michaël. Puis vient l'église de Sardes qui est l'esprit de l'archange Samaël. Il est là, il y a un atome de lui dans cet endroit que nous devons réaliser, nous devons développer cet atome, nous tous. Dans l'église de Philadelphie, on a l'archange Sachariel. C'est merveilleux de savoir ça, de le comprendre, de le pratiquer. Dans l'église de Laodicée, nous avons l'archange Orifiel. Et nous voyons que les sept esprits devant le trône de Dieu sont là, devant le trône de notre Dieu. Écoutez-moi bien, que nécessairement, il doit avoir la capacité de réfléchir sur tout ça. Parce que incarner l'esprit, c'est un besoin très urgent. Parce que nous avons besoin d'avoir une âme-esprit à l'intérieur de nous. Parce que nous avons une âme humaine de nature masculine et nous avons besoin de l'unir à cette âme qui a une nature féminine, qui s'appelle l'esprit. Cette âme-esprit est celle qui dit que je ne mange pas d'ordure, je ne bois rien d'immonde. Et ça, on le comprend comme que nous devons apprendre à boire nos eaux, boire de nos eaux, c'est-à-dire à les transmuter quotidiennement. Nous avons besoin alors de faire de nos vies une œuvre maîtresse, maître, une grande œuvre. Mes chers frères et sœurs, ce que nous laissons comme travail, c'est d'étudier, analyser, méditer.